Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans le réveil culturel, à la radio ou en podcast. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée et aujourd'hui, notre invité est le grand Manu Larcenet. Son dernier album, Thérapie de groupe, édité par Dargaud, marque un tournant dans la carrière de cet auteur de bande dessinée, de l'auteur de Retour à la Terre, de Blast, des aventures de Nukumuk, puisque Manu Larcenet a décidé de se passer une bonne fois pour toutes du papier pour dessiner directement à la palette graphique en utilisant aussi des logiciels pour les mises en forme et les couleurs de ses histoires. Et à quelques jours de l'ouverture du festival d'Angoulême, où il n'ira pas comme d'habitude, Manu Larcenet a toutefois accepté de nous parler de sa carrière, du milieu de la bande dessinée qu'il a fui pour vivre à la campagne, de ses angoisses d'inspiration et du métier d'auteur de bande dessinée, alors qu'une enquête publiée par le département d'Angoulême nous alerte sur le fait que 150 auteurs de bande dessinée sur 200 recensés dans cette ville sont au RSA. Au café donc avec Manu Larcenet.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Alors comment on passe d'une méthode de travail, disons traditionnelle, le crayon, la plume, le papier, à l'ordinateur? Qu'est-ce qu'on fait, Manu Larcenet? On apprend tout seul comme un grand?
On fait exactement comme on a fait depuis le début, c'est-à-dire que moi j'ai pas appris à ancrer par exemple une planche de bande dessinée à l'école, j'ai appris tout seul en regardant les anciens. Et là ça change pas, j'ai un stylo sur ma tablette, c'est pas un clavier, tu vois que j'ai, c'est un stylo, donc le trait, un trait c'est un trait quoi, un trait que tu le démarres en A, de A à B, sur ordi ou sur papier, c'est pareil. Après, il faut apprivoiser. Mais en fait, le vrai truc, eh bien, c'est le CTRL-Z. Tu vois ce que je veux dire? L'immédiat repentir. Tu merdes un truc, hop, tu l'enlèves tout de suite. Alors qu'avant, il fallait le couvrir, il fallait le masquer, il fallait mettre du blanc, c'était du bricolage. Justement, l'ordinateur permet de... Moi, me donne une patience que je n'ai pas. Dans le livre, vous verrez, il y a des pages entières qui sont faites, vous savez, de ces vieilles... Janis Joplin utilisait ça dans les années 60, 70. C'est le psychédélisme. Sur du papier, jamais je me serais lancé dans... Là, j'ai fait 2-3 pages entièrement psychédéliques. Jamais j'aurais fait ça. Jamais j'aurais eu le courage de faire ça. C'est long, c'est pénible. Eh ben, l'ordinateur, comme vous agrandissez et que vous vous retrouvez avec un petit carré, bah, vous dessinez en pensant à autre chose. Vous dessinez, puis petit à petit, ça se monte, ça se fait, et hop, c'est fini. Ça m'a donné de la patience, une patience que j'avais pas, en fait.
Quand vous avez travaillé le tome 1 de cette nouvelle série, Thérapie de groupe, Manu Larcenet, tout était déjà pensé avant que vous vous mettiez à dessiner ces petites histoires, ces fragments d'histoire?
Alors, à l'inverse de ce que j'ai fait récemment, c'est absolument de l'improvisation tout du long. L'improvisation, quand je m'entends, c'est-à-dire que je dessine une page, et puis après, je tourne autour de ma table pendant 3-4 jours, et ah, à un moment, je me dis, ah bah, je pourrais continuer comme ça, donc j'essaye, ça marche pas, si ça marche, tant mieux, je passe à la troisième, si ça marche pas, je jette, et puis je remarche autour de ma table pendant quelques jours, et puis j'essaie. Je réessaye tout, et souvent sous le coup d'émotions artistiques, c'est-à-dire, là, par exemple, je lisais un livre sur la gravure du Moyen-Âge. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, j'ai jamais utilisé ça. Et là, dans le tome 2, il va y avoir je me lance dans des gravures du Moyen-Âge, donc c'est long, pénible et tout. J'ai refait des tableaux de Dürer, des choses comme ça à ma sauce. C'est des petits plaisirs graphiques que j'arrive à incorporer dans, parce que c'est pas une histoire, c'est pas un récit non plus, je sais pas comment dire, dans le journal intime que c'est ce truc-là. Et beaucoup de choses partent de ces envies graphiques.
Mais il y a d'abord cette question qui est centrale dans ce tome 1, c'est-à-dire l'artiste face à la panne d'inspiration, ou face à la peur de la panne d'inspiration, voilà. Plutôt.
Eh ben, vous êtes le premier à dire ça, et c'est exactement ça. C'est la peur de la peur. C'est un nom, d'ailleurs, je me souviens plus, c'est un nom quand on a peur de la peur. J'arrive péniblement, à un âge avancé, hein, une cinquantaine d'années au compteur, et j'ai plus envie de bâcler. Ça me saoule maintenant. Donc j'ai envie de faire quelque chose qui soit non plus une ressucée de ce qu'on a déjà vu ou de... Voilà, j'arrive à un moment où j'ai envie de... J'ai fait mon truc à moi avec Blast, donc dans un côté très noir, très... Voilà. Et en humour, j'ai travaillé avec Ferry et j'étais ravi, mais c'est pas moi qui écrivais. Et tout le reste que j'ai fait en humour, je suis pas content. Donc je me suis dit, là maintenant, il faut que je m'attaque à l'humour et que je fasse exactement un truc qui soit personnel. Et moi, ma personnalité, c'est le chaos. Dans ma tête, c'est très très chaotique. Et je me suis dit, il faut que je prenne ça comme un atout et non plus comme un handicap pour ne pas mener un récit, justement, mais mener des réflexions. Alors évidemment, ça peut paraître un peu pompeux, un peu chiant, mais j'essaie que ces réflexions soient justement plutôt rigolotes ou plutôt un petit peu enlevées, tu vois. J'essaie pas de faire pleurer dans les chaumières. Mais en même temps, je veux parler du dessin, je veux parler de la création, je veux parler de la difficulté, je veux parler aussi de l'idée de... Tout le monde peut trouver des idées, c'est pas un problème. Tout le monde me dit... Les idées, c'est pas un problème, c'est la bonne idée qu'il faut trouver. Et ça, c'est une vie de travail, c'est des mois et des mois de se dire, mais que faire? Et là, mon idée, c'est d'être le plus proche possible de ma psyché à moi.
Est-ce que vous êtes vraiment bipolaire, Manuel Arsenet?
Alors, j'ai été diagnostiqué tout à fait officiellement deux fois, oui. On est diagnostiqué au bout de 8 ans, et ça fait 30 ans que je suis en thérapie.
Oui, mais alors, est-ce que c'est clinique ou est-ce que c'est propre à tous les artistes, non, dédoublement?
C'est clinique, c'est absolument clinique. Il y a des artistes, notamment Van Gogh, notamment Baudelaire, c'est assez visible. Déjà, il y a deux bipolarités. Il y a la bipolarité type 1 qui est très grave, et puis moi, je suis de la bipolarité type 2 qui est un peu moins grave. Et puis surtout, je suis sous traitement. C'est-à-dire que maintenant, depuis une quinzaine d'années, je suis sous traitement.
Et ce que vous racontez dans thérapie de groupe, d'ailleurs.
Bien sûr. Et puis, j'ai fait des conneries avec ces traitements. J'ai pris les médicaments mal, j'ai arrêté de les prendre et tout. Mais bien sûr, en vieillissant, je me suis fait une raison et ce traitement m'a, comment je peux vous dire ça, m'a sauvé en fait. Je voyais pas ce que j'allais faire sinon. On ne sait pas l'expliquer en fait. C'est une maladie qui naît de deux choses, qui naît d'un terrain génétique, voilà, dans ma famille sans doute qu'il y a déjà eu, hein, et une manière de gérer le traumatisme. Quand on est enfant, on a des traumatismes tous et on n'a pas tous la même manière de les ressentir. Et pour certains, ça déclenche à l'adolescence un trop plein d'émotions, de contradictions intellectuelles et tout qui font exploser la psyché. Et c'est moi, ça m'est arrivé sur le tard, mais j'étais déjà un enfant dépressif. J'ai dit, mon enfance et ma jeunesse sont pas enviables. Après, ça a été mieux.
Vous allez raconter ça un jour, ma jeunesse?
Ouais. J'ai envie de faire une sorte de mes mémoires. Ouais. Ça paraît très très prétentieux, mais ce sera à moitié romancé. Par contre, ce sera pas rigolo là. Et ce sera toutes les choses qui m'ont vraiment marqué durant mes années de jeunesse et d'enfance.
Alors, vous avez parlé de médicaments, Manuel Arsenet, mais ce qu'on découvre dans thérapie de groupe, c'est que la peinture peut être un remède pour vous. Comment chez vous ça se concrétise?
Par exemple, il y a un tableau à Orsay de Cézanne qui s'appelle « Femme avec une cafetière ». Ce tableau, je l'ai découvert quand j'avais 13 ou 14 ans. Et j'ai eu un peu ce qu'avait eu l'écrivain, dont je me rappelle plus le nom, quand il allait à Florence, qui a eu une sorte d'évanouissement au milieu de tant de beauté. Stendhal. On appelle ça le malaise de Stendhal ou je sais plus quoi. Alors j'ai pas eu ça comme ça, je me suis pas évanoui devant. Mais je suis resté des heures devant ce tableau. Et c'est toujours, quand j'y vais maintenant, c'est toujours aussi fort.
Vous pouvez décrire cette émotion?
C'est un bien-être, c'est l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui n'a parlé qu'à moi. Ça m'est arrivé aussi, par exemple, quand j'ai... Alors, je suis très mainstream, hein, je suis désolé, mais... Par exemple, quand je suis tombé nez à nez au tournesol de Van Gogh, une des six versions, je l'ai vu qu'une fois en vrai. Pourtant, j'avais vu ce tableau des centaines de fois dans des repros. Mais de savoir que sa main était là... J'ai l'impression, c'est con, mais j'ai l'impression que c'est pour moi en fait.
Mais pourquoi? Parce que c'est l'histoire du tableau, c'est la perspective, c'est les couleurs.
C'est une vibration, c'est une force, c'est une... Il y a ça pour moi dans la peinture. D'autres le ressentent dans la musique, d'autres vont le recevoir dans le cinéma. Moi, c'est dans la peinture. Il y a des peintres, il y a surtout des œuvres, on va dire, qui me chavirent parce que, comme quand un écrivain vous dit ce que vous cherchez depuis des années, il vous le dit en quatre mots, et bien certains peintres vous disent ce que vous cherchez depuis des années en quatre traits ou en quatre couleur. C'est aussi beau. C'est comme de la poésie. On ne sait pas pourquoi on aime une poésie. Eh ben, un tableau, c'est exactement pareil. Sauf que moi, je sais après pourquoi je les aime. Parce que je les aime tellement que je les décortique et que je me renseigne dessus pendant des jours, des années et tout ça. Mais ça n'enlève pas la beauté de quand je vais le voir. Par contre, à l'effet inverse, par exemple, je détestais Mondrian quand j'étais jeune. Et le fait d'apprendre qui était Mondrian, de lire Mondrian et de voir sa progression... Et ben maintenant, je trouve que c'est un immense artiste, et quand je vois un Mondrian, je reste scotché. Mais j'ai pas cette émotion, si tu veux, là. Mais je comprends ce qu'il a voulu faire. J'ai une passion pour les peintres, hein, faut dire les choses.
On va continuer à dire que Manuel Arsenet fait de la bande dessinée à défaut de faire de la peinture.
Ah, disons que je suis content de faire de la bande dessinée, parce qu'il y a la narration. Et les peintres, ils ont pas la narration. Ou, enfin, si, ils l'ont en plus. Mais moins facilement que nous en bande dessinée.
Thought it'd be this. I'm jumping out of your arms. I land and fall in a pit. Is this what they call the abyss? I fought and clawed for an inch.
turning a miracle mild. I could recall when your lips used to contort into smiles. Bright as the sun, the strong in eclipse. I haven't seen light in a while. Hasn't been bright in a while. Wrist.
Manu Larsonnet, s'il fallait maintenant faire un bilan de votre carrière d'auteur de bande dessinée, est-ce que par exemple c'est un métier que vous allez pouvoir conseiller à des jeunes, à vos enfants par exemple ?
Mais moi je conseille de toute façon de dessiner, il faut dessiner et il faut raconter. Je me désole de voir la qualité de l'immense majorité des blogs de jeunes ou des blogs féministes ou des blogs je sais pas quoi. Dès que tout le monde se targue de faire de la bande dessinée, je regarde et je me dis mais c'est pas ça, il faut aller plus loin, beaucoup plus loin. Dessiner, tout le monde sait le faire. Faire de la bande dessinée, créer, faire une peinture, faire un dessin, là tout le monde sait pas le faire. Tout le monde ne peut pas dessiner une bande dessinée, ou ne peut pas dessiner un tableau, ou ne peut pas faire un dessin qui tienne debout. Mais tout le monde sait prendre un crayon et faire un rond pour la tête, deux points pour les yeux, c'est un dessin. Après, quand on veut aller plus loin que ça, pour moi, ça passe par la culture. J'ai découvert ça à l'école. J'étais passionné à mon grand étonnement par les cours d'histoire de l'art. C'est-à-dire que c'est pas la peine de se casser le cul chez soi, à vouloir retrouver des choses qui ont déjà été faites par d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut se remplir de l'histoire de l'art d'abord, qu'est-ce qui a été fait, quelles sont les pistes qui ont été explorées, et après voir soi-même où, vers quoi on préfère aller, ou justement aller vers quelque chose qui, a priori, n'a pas été beaucoup exploré. Mais c'est que par la culture. C'est comme, tiens, tu vois, la grande musique, la musique classique. Moi, je ne connais pas, j'aimais pas. Et puis mon épouse connaît, et elle m'a fait écouter, elle m'a expliqué, elle m'a remis en perspective les dates. Pourquoi est-ce que ce type a enregistré ça à telle époque? Pourquoi est-ce qu'il a composé ça de telle manière, de ça? Et soudain, je me suis mis à écouter cette musique-là d'une autre oreille.
Parce que vous aviez les clés.
Voilà, exactement. Et je pense que il faut vraiment enseigner l'histoire de l'art en même temps que l'histoire à l'école, parce que ça va de pair, en fait. And you are a gift in itself, a measure of wealth, the meaning is selfless. I place you over the shelf and hide in pedestals over the belt. I shred all the waste on Orion's constellation, observation of you. Here come the truth, I'm most overdue. Stuck over you, I've gone under. Living proof of God's wonders.
Le réveil culturel. Tufik Hakem.
Alors comment expliquer l'histoire de cet album, de cette nouvelle série, Thérapie de groupe, dans votre œuvre, Manu Larsonnet ?
C'est comme je disais tout à l'heure, je voulais faire de l'humour qui ne soit pas référencé, qui soit pas celui de Ferry, qui soit pas celui de Lewis Trondheim, qui soit juste le mien. Donc ça a été le challenge de reprendre le fameux gros nez et de faire que ce soit pas un truc pour adolescents, que ce soit pas une série de pirates, de cow-boys, de je sais pas quoi, que ce soit juste un truc que les gens qui ont à peu près mon âge peuvent comprendre. Et après, quand en plus on est âgé, qu'on marche moins... Non, mais vous rigolez, mais j'ai une santé de merde, moi. J'ai eu une vie où j'ai jamais fait de sport, où j'ai jamais bien mangé, où j'ai pris des tonnes de choses. Je m'estime déjà très content d'être arrivé là. Et dans un état où je peux encore marcher, mais c'est vrai que par exemple j'ai une jambe qui marche plus très bien. Enfin, petit à petit les choses se font. J'ai des lunettes. Vous pouvez pas le voir maintenant parce que je les ai oubliées dans un studio. Mais j'ai des lunettes et les lunettes c'est marrant. Ça c'est un truc que je savais pas. Ça réduit le champ de vision. Alors quand on en est habitué c'est pas gênant. Mais quand on en a jamais porté de sa vie, j'ai l'impression de rater quelque chose. Tout ce qui est en dehors des lunettes, j'ai l'impression de le rater, de plus le voir. Ça change mon champ de vision et ça change ma manière de dessiner. Ça change ma manière de cadrer aussi. Je m'en suis aperçu récemment.
Manu Larsonnet, vous êtes au courant que cette année a été décrétée par le ministère de la Culture et le Centre National du Livre, année de la bande dessinée. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Plus on parlera de bande dessinée, plus je serai ravi, parce qu'il y a dans la bande dessinée des chefs-d'œuvre. Maintenant, il n'y a pas que ça. Longtemps, j'ai milité pour une bande dessinée toute puissante, qu'on reconnaisse ça comme un art premier, qu'on nous mette au même niveau que les littéraires ou que les peintres. Et je reconnais que je me suis trompé, parce qu'il y a quand même énormément de trucs achetés en bande dessinée, donc c'est ni plus ni moins qu'un art. Mais si on peut en parler, c'est pas plus mal. Moi, j'aime bien.
Le statut de dessinateur, d'auteur de bande dessinée en France, comment aujourd'hui un dessinateur vit ou ne vit pas ou survit avec ce métier ?
Oui, on n'est pas non plus des caisses, mais c'est vrai qu'on est quelques-uns à vivre de ça, essentiellement parce que les gens font un effort en mettant la main au porte-monnaie. Et c'est pour moi à chaque fois un geste étonnant, parce que je me demande toujours pourquoi mettre autant d'argent dans un livre, et en même temps d'une grande, c'est une grande tendresse, je trouve, comme geste d'acheter le livre de quelqu'un. C'est d'acheter une fenêtre sur lui, et pour moi d'avoir une fenêtre vers les gens, quoi. Donc c'est sacré un peu. Maintenant, j'ai un statut privilégié, donc je peux vous parler de ceux qui n'ont pas un statut privilégié et qui sont obligés d'avoir souvent un vrai travail, comme on dit, vous voyez, un vrai travail à côté de la bande dessinée. Mais ça a toujours été le cas des artistes, toujours. Alors, donner un statut à des gens qui sont pas encore assez forts pour gagner leur vie, bah, je me dis, ouais, bon, pourquoi pas. Moi, j'ai vécu très bien sans aucun statut, je payais pas d'impôts, j'avais pas de chômage, j'avais rien, et je vivais, voilà, je vivais de ça. On faisait de la musique, on faisait du dessin, on achetait très peu à manger, c'était vachement bien. Alors maintenant, c'est vrai qu'on aimerait avoir la sécurité, mais quand on veut la sécurité, il faut pas faire artiste, quoi. C'est un des rares trucs auquel je tiens, c'est si on était aussi sûr de l'avenir que quelqu'un qui a un vrai statut, qui est un salarié, ou tu vois, qui a un vrai statut, eh ben, on serait pas libre. Or là, on fait exactement ce qu'on veut. Exactement. Donc je me dis, il y a des métiers qui ont besoin d'avoir des statuts, qui ont besoin de choses solides, mais pour les artistes, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Ça l'a jamais été. Historiquement, c'est un des métiers les moins sûrs du monde, quoi. Donc ça n'a pas changé depuis, sans doute, l'homme des cavernes.
Manuel Arsenet, est-ce qu'on vous verra aujourd'hui, cette année, à Angoulême, ou est-ce que vous êtes toujours l'ours solitaire qui ne veut rencontrer personne?
Je suis l'ours solitaire. Par choix, je suis mieux chez moi. Et Angoulême, c'est très très bien, c'est un grand festival, et c'est très bien. Mais c'est
ça,
vrai,
vous manque ou pas?
Honnêtement, non. Non. Je fais plus de festivals ou de dédicaces. Parce que déjà, je suis vieux, j'en ai marre de voyager le week-end.
J'aime vous refusez même d'être primé par vos pairs.
Ah, il m'est arrivé des fois de refuser parce que je trouvais qu'il aurait été indécent de ma part d'être primé avant mes pairs. À Angoulême, une fois, j'étais en lice pour le Grand Prix avec Cosset. Cosset, moi, je me rappelle, j'avais 12 ans et je recopiais ses livres avec une immense admiration qui ne s'est jamais défaite. C'est un type qui fait un boulot très haut de gamme depuis, je sais pas, 30, 40 ans. Il est impensable d'être primé avant son maître. Donc j'avais dit, s'il vous plaît, ne votez pas pour moi, votez pour Cosset. Et il a été élu, d'ailleurs. Merci, moi.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous refuserez pas le suprême.
En fait,
le prix suprême, enfin, vous le méritez, Manuel Arsenet.
Non, je le mérite pas parce que je ne crois plus que la bande dessinée. Je serais pas, si vous voulez, un bon ambassadeur de la bande dessinée. Je l'aime plus assez. J'aime pas ce milieu. J'aime plus ce milieu. Je n'aime plus parce que j'ai eu beaucoup d'espoir en entrant dans un milieu artistique, de rencontrer des artistes et de parler avec des artistes d'art. Et je me suis aperçu qu'en bande dessinée, c'était apparemment très honteux. On devait plutôt parler de Gaudriol et de Picole et de tout ça, et qu'on parlait jamais d'art. Donc les seuls avec qui j'ai parlé d'art, c'était Jean-Yves Ferry, c'était Cabu. Il y en avait 3 ou 4, toi, pas plus. Et je trouve ça d'une indigence dans un métier artistique, quand on parle pas d'art et qu'on parle d'autre chose, j'ai pas ma place. Et puis, pour être honnête, j'aime très peu de bande dessinée. Il y a beaucoup de bande dessinée que je trouve, à tort ou à raison, très mauvaise. Donc j'ai pas envie d'être le représentant. Pour être le Grand Prix d'Angoulême, il faut pouvoir représenter la bande dessinée dans divers pince-fesses ou divers je sais pas quoi. Et moi, j'ai pas tellement envie de la promouvoir. J'aurais envie, si tu veux, de promouvoir un livre, un auteur, là, ouais.
Quelle est votre famille artistique, Manuel Arsenet? Vous avez cité Cabu, vous avez cité Ferry.
Sur Jean-Yves?
Ouais.
Non, c'est bien, je trouve que c'était le meilleur pour le job.
Okay.
À supposer qu'il faille faire ce job, c'est de loin le meilleur pour ce job. Pour moi, il a fait des albums. Je vois pas qui aurait pu faire mieux, à part évidemment Goscinny. Mais il a été hyper. Puis, tu sais, c'est compliqué, il faut être respectueux de Uderzo. T'as une équipe sur le dos de je sais pas combien de personnes qui disent ah ben non, le trait là, Uderzo, il l'aurait jamais fait comme ça. Ou Goscinny, il l'aurait jamais raconté comme ça. Donc c'est très dur d'aller se glisser dans un truc. Après, voilà, c'est pas mon truc, je le ferai pas, mais
il a
très bien fait.
Si.
Astérix, je crois pas.
Ouais,
il y a trop de pression.
Ah bon?
J'ai fait un
Valérian.
Un Valérian, ouais.
Alors,
mais là, du coup, j'avais pas de pression. J'avais justement dit, je ne monte pas mes pages. Et j'ai pas tenu. Je les ai montrés à Mazière parce que je sais qu'il aime pas trop qu'on touche à ses personnages. Donc je lui ai montré à lui. Mais j'ai pas montré à l'éditeur. Et j'ai dit, je fais le truc et si vous le voulez, vous le prenez. Si vous le voulez pas, vous le prenez pas. Mais je voulais pas qu'on me dise, ah ben non, ça, vieux, tu peux pas. Ça m'énerve qu'on me dise, tu peux pas.
Donc vous rejoignez un peu le club des grands dessinateurs à qui on donne des reprises. Non mais c'est vrai, hein, je veux dire que...
Alors attendez, parce qu'on va remettre les choses à leur place, j'entre dans aucun club, parce que...
John Farr, Christophe Blain, Blueberry, dernièrement, Le Tif étendu par Blutch, ça va sortir là incessamment sous peu.
Vous citez 3 artistes avec qui j'ai un passif dégueulasse. On s'est pas du tout entendu avec ces gens-là. On s'aime pas. On n'a rien en commun.
Et pourtant, vous êtes considéré aussi grand qu'eux, ou vous faites partie de cette nouvelle génération.
J'ai 50 berges. T'imagines la nouvelle génération?
C'est leur âge, hein. C'est notre âge.
Oui, eux, oui, mais j'espère qu'il y a des mômes qui vont venir là et qui vont nous jeter dehors. Vraiment. Alors, je les vois pas arriver parce que sur les blogs que je regarde.
Mais c'est fou ce que vous venez de dire, la Manu Larsonnet, hein, de dire je me suis pas entendu avec ces gens-là.
C'est pas méchant. C'est sans doute des personnes extraordinaires, mais moi, je m'entends pas avec ces gens-là, quoi. J'ai pas beaucoup d'amis dans la vie. J'en ai même quasiment pas, plus. C'est parce qu'aussi, moi, je suis exigeant, quoi. Quand on l'est avec moi, je le suis avec les personnes. Et je m'entends pas avec ces gens, c'est tout. Mais c'est pas grave. Il y a pas. Mais au début, je pensais que je pourrais m'entendre avec tous ces gens. Puis c'est vrai qu'ils m'ont tous mis de côté d'un air de dire lui, il copie, lui, ceci. J'ai entendu ça pendant des dizaines d'années à Fluid. Il copie Blotch, il copie un gosse, un regardez, il a encore fait. C'était d'une mesquinerie, d'une stupidité. En plus de la part d'artistes qui eux-mêmes sont pétris d'autres choses qu'eux-mêmes, me reprocher ça à moi, c'était d'une stupidité incroyable. Je sens que je vais regretter ce que je suis en train de te dire là. Mais je trouve ces gens pas honnêtes. Voilà, pas honnêtes.
On a tous nos défauts, Manu Larsonnet, ça les rend humains.
Bien sûr, mais ça permet, moi, de pas non plus côtoyer des gens que j'apprécie pas plus que
alors,
ça.
Revenons à la question centrale. La famille Manu Larsonnet, il y a Jean-Yves Ferry.
Peut-être. Il y a un type qui m'a jamais laissé tomber, c'est Lewis Trondheim. Au moment où tout le monde se foutait de ma gueule et me cherchait, Lewis, lui, il a fait les cosmonautes du futur pour moi. Il m'a amené chez Dargo à l'époque où il y avait encore Guy Vidal, qui a été mon mentor pendant malheureusement que 5 ou 6 mois. C'était un type que j'ai découvert, que je connaissais pas et que j'ai adoré. J'ai adoré être édité par Guy Vidal parce qu'il me cassait en deux quand il y avait un truc qui marchait pas et je comprenais très très vite ce qu'il disait. Et malheureusement, il est mort très vite et j'étais un peu orphelin au début. Mais c'est Lewis qui m'a emmené là-bas. Lewis, il m'a jamais laissé tomber. Jamais, 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 jamais. Donc j'ai une tendresse particulière pour Lewis, mais aussi pour Cabu, parce que c'est la première main que j'ai vue dessiner de ma vie. C'est à la télé, dans Récréa 2, j'ai vu cette main dessinée là, de ce type absolument timide, avec les cheveux sur les yeux, qui osait pas lever les... qui faisait un petit sourire en coin, mais qui avait pas de micro. Et il semblait tellement timide. Et quand il dessinait, il y avait une sûreté. Il y avait une aisance. Et soudain, ça dézoomait, on voyait l'image. Et t'avais tous les mômes qui applaudissaient. Et je me suis dit, bah tiens, on peut parler sans mots. On peut parler sans avoir être en face à face avec la gorge ou la bouche de quelqu'un ou le visage de quelqu'un. On peut utiliser comme mots, on peut utiliser des traits. Et c'est lui qui m'a donné ça. Alors après, je l'ai rencontré, mais malheureusement, 3 mois, je crois, avant qu'il se fâche ce Quachizé. Et on a eu 2 après-midi où il m'a emmené dans son atelier où on a passé 5 ou 6 heures à ne parler exclusivement que d'art. Et c'est des moments pour moi qui... Il n'y a pas de mots. Parce qu'en plus, il était non seulement très, très cultivé là-dessus, mais aussi à l'écoute. Il voulait savoir ce que je pensais. Et c'est une des rares fois où dans ce métier-là, quelqu'un voulait savoir ce que je pensais. Enfin, à part des journalistes, bien sûr, mais je veux dire, un autre artiste. Et là, on avait un échange sur des peintres, on avait un échange sur les dessins des dessinateurs. Et lui m'a fait découvrir, effectivement, des dessinateurs que je connaissais pas. Et moi, en échange, je lui ai montré des choses, effectivement, que lui connaissait pas. Et c'était un type d'une grande patience. Et moi, j'étais tout fou dans son atelier. De revoir cette main, tu vois, dessinée. Et il m'a dédicacé un truc et je l'ai regardé faire. Et j'ai retrouvé la même sûreté de trait, combien, 40 ans après, 30 ans après. Le même trait.
Voilà, on est en train de constituer la famille Manu Larsonnet. On a le père, on a le frère, on a le jumeau, Jean-Yves Ferry. Et le fils, ce serait qui? Ou la fille?
Je sais pas.
S'il y a bien un ou une jeune dessinateur.
Moi, j'adore Fred Caro. Mais pour moi, il est arrivé après moi, donc du coup, il est plus jeune, tu vois. Et je me suis arrêté à Zaï Zaï, donc j'ai pas vu ce qu'il avait fait après. Mais en tout cas, lui, il me fait rire. Et puis Marion Montaigne aussi. Marion Montaigne, elle n'est pas encore réserve, mais elle a un dessin qui tellement expressif, en quelques traits rejoint par un petit bout de couleur, elle arrive à te camper un personnage. Je suis toujours admiratif de ces dessins-là. Et puis elle a un humour que j'aime beaucoup. Après, je suis pas sûr que faire toujours de la science. Moi, j'aime bien les gens qui font aussi des histoires parfois. Donc, j'aimerais bien la voir faire une histoire, une vraie histoire qu'elle aurait inventée elle-même.
Allez, une dernière question, une question classique, comme on dit. Est-ce que quand vous dessinez, vous retrouvez une part de l'enfant que vous étiez, Manu Larsonnet?
Il y a forcément quelque chose qui vient de l'enfance. Tout le monde. Quand je parlais avec Ferry, pourquoi il dessine? À cause d'une enfance un peu difficile, un peu terne, un peu. Et souvent, tous les artistes que j'aime, Mano Solo, tous les artistes que j'aime ont eu en général un passé fracassé ou difficile. Et donc je me dis, ceux que j'aime, en fait, c'est ceux qui ont eu mal. Quelqu'un qui m'éclabousse de sa douleur, ça me touche. Voilà.
Bah, merci Manu Larsonnet.
C'est moi, monsieur Hakem.
Alors, cette thérapie de groupe avec un journaliste de France Culture.
C'était très bien, j'aime beaucoup.
Bon, mais je peux dire la vérité, c'est-à-dire que ce que je vois en ce moment, c'est un Manu Larsonnet en forme. Souriant.
Mais vous savez, monsieur Hakem, je viens à Paris, 3 jours. Tout le monde s'occupe de moi. Tout le monde veut savoir ce que j'ai fait, comment j'ai pensé ça. C'est extrêmement flatteur, c'est génial. Je suis content. Et après, je rentre chez moi. C'est la solitude la plus complète. Là est ma vraie place. Mais j'adore venir vous voir.
Merci, monsieur Manu Larsonnet.
Ça me remet le moral. Au revoir, monsieur.